RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire aujourd'hui et mon Indonésie. L'arbitre suivante, magazine culturel et apprendre l'indonésien. Avant de terminer cette émission, vous allez écouter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Selon la ministre des Finances, l'Indonésie a besoin de négociateurs fiables pour faire face à l'ère de la guerre commerciale. L'Indonésie a la possibilité d'augmenter ses exportations d'huile de palme en Arabie Saoudite. Garuda cède à nouveau le vol Jakarta-Londres. Le ministère de l'Industrie fait la promotion de la mode indonésienne en France. Trois sociétés saoudiennes ont remporté le Prima Duta Award. L'Indonésie Expo 2018 à Jeddah a été visitée par 13.521 personnes. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. La ministre indonésienne des Finances, Madame Sri Mulyani Indrawati, a rappelé que son pays devait préparer des documents, la position claire et des négociateurs fiables pour faire face à l'ère des guerres commerciales bilatérales et à l'affaiblissement des mécanismes de solution multilatérale de plus en plus complexes. Cité par Antara dans les médias sociaux officiels du ministère des Finances à Jakarta dimanche, a déclaré que cela devrait être fait car la prise économique reste inégale et les politiques économiques entre les pays de plus en plus déséquilibrées et qui ne sont pas unidirectionnelles aggravées par des politiques de confrontation commerciale. Selon la ministre, les guerres commerciales ont donné naissance au désir du G20 de faire des réformes multilatérales au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Pour cette raison, Mme Sri Mulyani espère que la réunion annuelle du G20 réunira des dirigeants des États à Buenos Aires, en Argentine, pourra véritablement aboutir à des décisions qui déterminent l'orientation de l'économie et la gouvernance mondiale. Sri Mulyani a rappelé à cette occasion que les menaces et les opportunités économiques numériques envers les opportunités et des types de travail à l'avenir restent une préoccupation du G20 car ils influencent les politiques de l'emploi, les réseaux de protection sociale et la fiscalité. Les possibilités d'accroître les exportations d'huile de palme indonésienne en Arabie Saoudite sont très vastes. Compte tenu, l'Indonésie ne remplit que 30% des besoins en huile végétable. Joko Supriyono, président de l'Association indonésienne d'huile de palme, lors de l'exposition indonésienne 2018 à Jeddah, a déclaré que l'Indonésie pourrait accroître les exportations d'huile à partir de palme vers l'Arabie Saoudite. Les besoins totaux de l'huile de palme en Arabie Saoudite atteignent 900 000 tonnes par an, tandis que l'Indonésie n'exporte que l'huile de palme à 370 000 tonnes par an. Selon M. Joko Supriyono, l'Indonésie a de grandes opportunités d'accroître les exportations car elle présente plusieurs avantages, notamment les bonnes relations entre les deux pays établies depuis longtemps. En outre, un grand nombre d'Indonésiens qui viennent en Arabie Saoudite pour Umrah et le Hajj. Ils ont donc des caractéristiques culinaires similaires. Seule une éducation et une promotion complétée sur l'huile de palme est nécessaire car de nombreux citoyens saoudiens ne connaissent jusqu'à présent que l'huile de tournesol ou l'huile d'olive. La compagnie aérienne nationale Garuda Indonesia confirme que le vol direct Jakarta-Londres aller-retour sera commencé le 13 décembre après un arrêt d'un mois. Le vice-président de PT Garuda Indonesia, M. Ihsan Rosan, a déclaré dans un communiqué de presse reçu lundi à Londres, les vols directs seront desservis par une flotte Boeing 777-300ER double classe, comprenant des classes de vol économique et de vol d'affaires, et opérées trois fois par semaine, le mardi, jeudi et samedi. Cependant, Ari Askara, président directeur de Garuda Indonesia, a déclaré que la réouverture de la ligne de vol direct Jakarta-Londres aller-retour faisait partie de l'engagement continuel de la société visant à renforcer les réseaux aériens internationaux, notamment en fournissant un accès direct de Jakarta à l'aéroport international de Londres. Il a confirmé que la réouverture du service de ce vol était également une étape positive pour Garuda Indonesia dans ses efforts pour améliorer les performances des compagnies aériennes. Vous écoutez toujours le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le ministère indonésien de l'Industrie fait la promotion des produits de la mode indonésienne lors du lancement du Festival international de la mode musulmane dans le défilé international La mode sur la scène à Paris. L'exposition de mode musulmane aura lieu en 2019. Cela a été déclaré par le directeur général des petites et moyennes entreprises, Madame Gati Wibawaningsih à Bali, dans une déclaration écrite reçue par Antara samedi. Elle a déclaré que le potentiel de l'événement La mode sur la scène à Paris a réuni 400 participants venus de l'étranger, tels que l'Italie, l'Allemagne, Taïwan, la Corée, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Russie. Ainsi, l'objectif à atteindre est d'accroître la valeur à l'exportation des produits de mode indonésien, notamment de la mode musulmane sur le marché européen et des pays de l'Organisation de coopération islamique. Selon Mme Gati Wibawaningsih, la mode sur la scène à Paris était organisée par la Chambre de mode indonésienne, une organisation de stylistes et une entreprise de mode regroupant le plus grand nombre de membres de diverses régions d'Indonésie, y compris des stylistes qui sont prêts à explorer le marché mondial. Le ministère indonésien de commerce a remis le prix Prima Duta aux trois sociétés saoudiennes fidèles à être des partenaires commerciaux indonésiens lors du dernier jour de l'exposition Made in Indonesia Expo 2018 à Jeddah, en Arabie Saoudite, samedi. Le directeur général du développement des exportations nationales du ministère du Commerce, Arlinda Ajeda, samedi a déclaré que Prima Duta était la plus haute appréciation du gouvernement indonésien aux entreprises étrangères en tant qu'acheteurs fidèles pour acheter et développer des produits importés d'Indonésie. Ainsi, ces sociétés étrangères contribuent à l'augmentation du volume de jouissance de l'Indonésie avec les pays partenaires commerciaux. Ce prix est un exemple de bonne confiance et d'engagement entre les hommes d'affaires saoudiens et l'Indonésie. Elle a souhaité que l'engagement commercial de l'Indonésie puisse se répandre dans toute l'Arabie Saoudite, de sorte que la coopération entre les deux pays puisse se renforcer. L'exposition de la Made in Indonesia Expo 2018, qui s'est tenue à Jeddah en Arabie Saoudite, a pu attirer 13 521 visiteurs pendant sa mise en œuvre du 28 novembre au 1er décembre. Monsieur Gunawan Marto Singorejo, le chef du Centre indonésien de promotion de commerce à Jeddah, a déclaré dimanche que son équipe avait approché des acheteurs en Arabie Saoudite pendant 2 ans. Selon lui, les produits et les partenariats indonésiens peuvent facilement être acceptés par le peuple saoudien à condition qu'ils remplissent au moins 4 conditions. Premièrement, la sécurité de l'approvisionnement en biens si l'Indonésie peut répondre en grande quantité. Et ensuite, le prix compétitif. Certains Saoudiens considèrent que le prix des produits en provenance d'Indonésie est plus élevé que celui des produits proposés par la Chine. Et ensuite, il répond à plusieurs normes de produits définies par l'Arabie Saoudite, entre autres les normes halal et la Saudi Food and Drug Authority. La 4e condition est la préparation des hommes d'affaires indonésiens à répondre aux demandes ou aux plaintes de la partie saoudienne. Si les 4 sont remplis, les marchandises entrent facilement car les relations entre les 2 pays sont très étroites et profondes. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires, les points de vue de RRI World Service, la voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Chers auditeurs, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire et pour le titre, respecter les droits des personnes handicapées à l'égalité. En Indonésie, le 3 décembre est célébré comme la journée des handicapés. Depuis sa proclamation par les Nations Unies en 1992, le monde international, y compris l'Indonésie, commémore particulièrement chaque année cette journée. L'objectif est de permettre aux personnes concernées de mieux comprendre les problèmes liés à la vie des personnes handicapées et de donner le soutien pour améliorer leur dignité, leurs droits et leur bien-être. Le thème de la journée du handicap de cette année est « L'Indonésie inclusive et adaptée aux personnes handicapées ». Le ministre des Affaires sociales de la République d'Indonésie, Agus Gumiwang Kartasasmita, à travers cette commémoration de la journée internationale des personnes handicapées, a invité toutes les parties à réaliser ensemble une Indonésie amicale avec les personnes handicapées. Pour cette raison, toutes les parties jouent un rôle à faire ensemble. Cela n'a pas disparu de la mémoire. Le sentiment de fierté du peuple indonésien pour la réalisation des athlètes indonésiens handicapés aux Jeux para-asiatiques de 2018. Le contingent indonésien occupe la 5e place avec 37 médailles d'or. La participation des athlètes handicapés fait l'objet de toute l'attention du gouvernement indonésien afin de leur offrir des chances égales. Le gouvernement Joko Widodo donne plus d'attention aux personnes handicapées en Indonésie. L'une d'elles est la publication de la loi des personnes handicapées numéro 8/2016 sur le respect des droits des personnes handicapées. Dans le cadre de la journée internationale des personnes handicapées, le gouvernement distribue également des cartes pour les personnes handicapées qui ont des grands avantages. Cette carte peut être utilisée pour enregistrer les types de troubles ou de handicap rencontrés. Le nombre de personnes handicapées en Indonésie pourra être calculé à l'aide de la carte. Le gouvernement intégrera les cartes pour personnes handicapées aux équipements publics afin de faciliter et de donner le confort aux personnes handicapées. Par exemple, les personnes handicapées ne sont pas tenues de payer des frais pour utiliser les bus et les trains de Transjakarta si elles présentent leur carte. Les cartes ne sont certainement pas suffisantes pour les Indonésiens handicapés, en particulier pour ceux qui sont en âge de travailler. Selon le résultat de l'enquête nationale sur la main-d'œuvre 2017, le nombre avec divers types de handicap atteignait plus de 20,5 millions. Mais ce qui est plus important encore, ils ont les mêmes chances que les citoyens non handicapés. En fait, le manque de complétude physique d'une personne est souvent contrebalancé par d'autres capacités. Les possibilités de travailler pour eux doivent également être élargies. Les entreprises indonésiennes doivent être plus ouverte à la gestion d'entreprises inclusives, ce qui ne vise pas seulement le profit, mais aussi l'amélioration du bien-être des personnes. Donner aux personnes handicapées la possibilité de travailler en accord avec leurs forces et leurs capacités. Avec la participation de toutes les parties, le droit des personnes handicapées à recevoir un traitement égal sera bientôt réalisé. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 3 décembre 1945, l'événement héroïque de la prise de contrôle de Gedung Sate. Après la proclamation de l'indépendance par l'Indonésie le 17 août 1945, des jeunes et des combattants ont pris possession de Gedung Sate, soit du bâtiment Sate à Bandung. Après cela, des jeunes des milieux de travaux publics et des transports ont fait de la base de siège commun de la lutte contre les forces du corps de lutte. Mais après l'arrivée des Alliés, en novembre 1945, Gedung Sate fut utilisé comme base de lutte à la ville de Bandung. Dans la bataille de 3 décembre 1945, 21 jeunes hommes ont été tués et 7 jeunes hommes ont été portés disparus. 7 ans après l'événement, les squelettes de 7 jeunes hommes disparus ont été retrouvés autour de Gedung Sate. Cet bâtiment, qui est situé sur la rue du Ponegoro Bandung, est enfin devenu l'icône de Bandung en tant que bureau du gouverneur. L'événement de l'attaque du 3 décembre 1945 a été transformé en une journée de service des travaux publics. Le 3 décembre 1967, l'équipe de médecins dirigée par Christian Netling Barnard a réussi à réaliser la première greffe du cœur humain dans le monde. Il est un chirurgien cardiaque originaire d'Afrique du Sud. Il a commencé à être connu dans le monde entier depuis qu'il a réussi à mener la première opération de transplantation cardiaque des hommes à hommes au monde. Il a étudié la médecine à l'Université Cape Town et exercé un mandat et a été résident de l'hôpital Good Shore à Cape Town. Il est devenu médecin généraliste à Cher, une ville en province Cap-Occidentale. La première opération de transplantation cardiaque a été réalisée par Christian Netling Barnard le 3 décembre 1967, assisté de son frère Marius Barnard. L'opération a duré 9 heures et impliquait une équipe de 30 personnes. Le 3 décembre est célébré comme la Journée internationale des personnes handicapées. La Journée internationale des personnes handicapées est une commémoration internationale parrainée par les Nations Unies depuis 1992 et commémorée chaque 3 décembre. Cette célébration vise à développer la compréhension publique sur les problèmes liés à la vie des personnes handicapées et à fournir un soutien pour améliorer la dignité, les droits et le bien-être des personnes handicapées. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Indonésiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Bonsoir chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Indonésiaku ou mon Indonésie, intitulée l'inauguration d'une usine de construction synthétique respectueuse de l'environnement. Le ministre de l'Industrie, M. Erlangga Hartarto, a inauguré une usine appartenant de PT Synthetic Rubber Indonesia, ou SRI, en tant que première usine de caoutchouc synthétique en Indonésie, à utiliser une technologie respectueuse de l'environnement. Le ministre Erlangga Hartarto a déclaré que PT SRI avait une capacité de production de 120 000 tonnes par an, ce qui augmenterait la valeur ajoutée du butadiène et les monomères de styrène qui étaient produits dans le pays, ainsi que le renforcement de la structure de l'industrie pétrochimique d'amont naval. Le ministre, lors de l'inauguration de l'usine PT Synthetic Rubber Indonesia ou SRI à Cilegon, Banten, a déclaré jeudi que l'usine de SRI était devenue la première usine de caoutchouc synthétique en Indonésie à utiliser une technologie respectueuse de l'environnement en utilisant la technologie de l'entreprise française Michelin. Selon Erlangga Hartarto, l'inauguration de l'usine SRI est la preuve que l'Indonésie est attrayante pour les investisseurs. L'industrie du caoutchouc synthétique est une industrie qui doit être développée parallèlement au progrès de l'économie nationale. Selon lui, avec l'industrie des composants de pneus complets, les investisseurs qui produiront des pneus en Indonésie augmenteront et encourageront les exportations de produits dérivés. Le caoutchouc synthétique est largement utilisé pour produire des pneus, des courroies transporteuses, des composants en caoutchouc, des chaussures et des enveloppeurs de câbles électriques. Actuellement, il n'y a qu'un seul producteur de caoutchouc synthétique d'une capacité de 75 000 tonnes par an. Les besoins en caoutchouc synthétique dans le pays en 2017 ont atteint 230 000 tonnes, pour répondre à ses besoins par des importations. Le ministre Erlangga a également souligné que l'industrie pétrochimique, y compris le secteur manufacturier, entré dans l'ère industrielle 4.0, comprend le ciment, l'automobile, l'alimentation et les boissons. L'industrie manufacturière est l'un des cinq principaux objectifs du gouvernement en matière de transformation de l'industrie 4.0 en Indonésie. Le président directeur de PT SRI, Brett Karas, a déclaré que SRI était la première usine d'Indonésie à utiliser la technologie respectueuse de l'environnement de Michelin. SRI a produit du caoutchouc synthétique de type solution styrène butadiène rubber et néodymium catalyse butadiène rubber, deux matériaux pour produire des pneus écologiques. SRI est l'entreprise commune, la collaboration entre Michelin et PT Chandra Asia Petrochemical, qui a été créée le 17 juin 2013 avec actionnariat respectif de 55% et 45%. La valeur de l'investissement provenant de la coopération a atteint 435 millions de dollars américains. PT SRI a reçu des incitatifs de congé fiscal du gouvernement indonésien. Cette entreprise a également commencé sa production en août 2018 et avait exporté 250 millions de dollars, conformément à la stratégie du gouvernement, afin d'augmenter le revenu de l'État par le renforcement du secteur manufacturier national. Selon les données du ministère de l'Industrie, les exportations de l'industrie manufacturière indonésienne continuent d'augmenter chaque année. Au troisième trimestre 2018, les exportations ont atteint 97,52 milliards de dollars, soit une augmentation de 5,71% par rapport à la même période de l'année précédente, à 92,25 milliards de dollars américains. Chers amis, c'était Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir à tous, bienvenue au magazine culturel en programme quotidien sur le tourisme, les arts, les alimentations et la culture de diverses régions d'Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous vous présentons la tradition de Sasi Laut au Molouk. Restez à l'écoute avec nous, La Voix d'Indonésie sur www.voanews.id. Chers auditeurs, presque partout dans les îles des Moluques telles que Halmahera, Ternate, Buru, Seram, Ambon, Banda, Kei et aussi en Papouasie comme les îles Raja Ampat, Sorong, Manokwari, Nabire, Biak et de nombreux autres ont une tradition particulière, à savoir Sasi. En fait, la tradition veut que de nombreux objets de tourisme naturel restent protégés pour leur durabilité. La tradition Sasi est menée par de nombreux villages situés dans les zones côtières. Chers auditeurs, Sasi peut être signifié comme une interdiction de prendre certaines ressources naturelles comme effort de préservation visant à protéger la qualité et la population des ressources naturelles. Sasi est un effort à maintenir la vie habituelle dans la population, y compris les efforts pour une distribution équitable ou un revenu des résultats des ressources naturelles environnantes à tous les résidents locaux. À l'heure actuelle, Sasi est plus susceptible d'être en droit traditionnel comparant la tradition, car Sasi est utilisé comme politique pour la prise de produits de la mer et de produits agricoles. Territoire, Sasi Laut est la réglementation traditionnelle en matière de prise de produits de la mer. Sasi Laut décide de la pause pendant laquelle les personnes ne doivent pas prendre les ressources de la mer à des moments déterminés et dans des endroits précis. Avec l'assistance de Sasi, les gens sont plus sages de prendre des produits de la mer. Lorsque Sasi Laut est en course, les gens ne doivent pas prendre d'animaux à la zone qui a été déterminée jusqu'à ce que Sasi soit ouverte ou se termine. Il faut donc être patient pour récolter les animaux marins. Bien que Sasi ferme pendant des mois, les peuples traditionnels restent patients et recherchent d'autres ressources naturelles pour répondre à leurs besoins quotidiens. Pendant la fermeture de Sasi, les animaux se reproduiront bien et la récolte sera plus abondante. En outre, les habitants croient que la personne qui brise Sasi sera victime d'une catastrophe. Chers auditeurs, actuellement, beaucoup de nouveaux arrivants sont difficiles à discipliner car ils ne sont pas liés aux coutumes. En conséquence, l'application du Sasi ne peut pas être traitée avec fermeté. Beaucoup de nouveaux venus et aussi de grandes entreprises qui prennent les ressources naturelles au Molouk et obscurcissent de plus en plus le système Sasi. Comme par exemple ce qui s'est passé à Nuller et au Nord-Terbang où des bateaux de pêche enfreignent la règle lorsqu'ils prennent des produits de la mer. C'est le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre attention. À demain.
Mari berbahasa Indonesia. Parlons indonésien. Vous invite à parler bien et facilement indonésien.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique Apprendre l'indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre La Voix d'Indonésie, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est « Kamu akan berlibur kemana ?» ou en langue française « Où vas-tu en vacances ?» Ensuite, je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre « Kamu akan berlibur kemana ?» ou en langue française « Où vas-tu en vacances ?» Chez Joko, Tony et Dinda parlent de projets de vacances.
Sebentar lagi libur panjang. Kamu mau berlibur kemana?
Belum tahu. Aku belum punya rencana. Mungkin di rumah saja. Kamu akan berlibur kemana?
Aku akan ke Bali.
Serita, après avoir écouté cette conversation, je vais introduire les expressions et le vocabulaire sur le thème d'aujourd'hui, à savoir, kamu akan berlibur kemana? Kamu akan berlibur kemana? En français, où vas-tu en vacances? Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Liburan, liburan. En français, période de vacances. Libur, libur. En français, vacances. Libur panjang, libur panjang. En français, longue vacances. Berlibur, berlibur. En français, passer des vacances. Sebentar lagi libur panjang, sebentar lagi libur panjang. En français, bientôt c'est la longue vacances. Kamu mau berlibur kemana? Kamu mau berlibur kemana? En français, où voulez-vous prendre des vacances? Belum tahu, belum tahu. En français, je ne sais pas encore. Aku belum punya rencana. Aku belum punya rencana. En français, je n'ai pas encore de plan. Mungkin di rumah saja. Mungkin di rumah saja. En français, peut-être rester seulement à la maison. Akan berlibur kemana? Akan berlibur kemana? En français, où irez-vous en vacances? Aku akan ke Bali. Aku akan ke Bali. En français, je vais à Bali. Inggris, Inggris. En français, l'Angleterre. Tidak mungkin, tidak mungkin. En français, pas possible ou impossible. Harga tiket, harga tiket. En français, prix du billet. Mahal, mahal. En français, cher. Dans le dialogue, Tony a demandé, kamu mau berlibur kemana? Kamu mau berlibur kemana? En français, où vas-tu en vacances? Cependant, Dinda a demandé, kamu akan berlibur kemana? Kamu akan berlibur kemana? En français, où vas-tu en vacances? Le mot mau, mau, en français vouloir, a plusieurs significations, parmi elles, ingin. Ingin, en français, vouloir, ou akan. Akan, en français, aller, pris en compte du contexte et de la situation lors de la conversation. Exemple, saya mau ke Bali minggu depan. Saya mau ke Bali minggu depan. En français, je vais aller à Bali la semaine prochaine. Le mot mau, mau, en français, aller dans cette phrase ne signifie pas ingin. Ingin, en français, vouloir, mais signifie akan. Akan, en français, aller. Autre exemple, saya mau ke Inggris. Tetapi itu tidak mungkin, karena harga tiketnya mahal. Je répète, saya mau ke Inggris, tetapi itu tidak mungkin, karena harga tiketnya mahal. En français, je veux aller en Angleterre, mais c'est impossible, car le prix du billet est cher. Vous pouvez deviner que le mot mau dans le contexte de la phrase signifie vouloir. Autre exemple, Tony voit Dinda quitter la maison. Tony veut savoir où Dinda ira. Tony va demander, kamu mau pergi kemana? Kamu mau pergi kemana? En français, où allez-vous? Le mot mau dans cette phrase signifie akan. La phrase kamu mau kemana? Kamu mau kemana? En français, où allez-vous? Est similaire avec kamu akan pergi kemana? Kamu akan pergi kemana? En français, où allez-vous? Donc, le mot mau peut signifier ingin et akan. Avant de terminer apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour plus de détails, écoutons l'exemple de la conversation encore une fois.
Sebentar lagi libur panjang. Kamu mau berlibur kemana?
Belum tahu. Aku belum punya rencana. Mungkin di rumah saja. Kamu akan berlibur kemana?
Aku akan ke Bali.
Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'indonésien pour ce soir. Que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître davantage la langue indonésienne. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir les auditeurs de RRI du Service mondial de la voix de l'Indonésie. N'importe où que vous soyez, on se retrouve avec moi, Tiwi, dans la rubrique du magazine musical qui vous présente les chansons indonésiennes. Dans cette édition, je vais vous présenter les chansons de Kroncong interprétées par des chanteurs indonésiens. Restez avec nous à www.voinews.id, à 3,25 kHz ou à l'application de RRI Play sur votre téléphone portable. Pour commencer l'édition d'aujourd'hui, écoutons la chanson de Sam Simon dont le titre est Lukisan Malam.
Cemerlang di malam sepi, bertaburan di angkasa segara, menghias alam. Angin pulang lemah gemerai mengusap bumi. Diiringi nyanyian maha merdu sang ratu malam. Waktu ini sunyi dendam suasana alam. Dari jauh embun sejuk bagai sutera dewangga murni, nikmat hati memandang kemesraan lukisan malam. Thank you.
Hebat hati memandang kemesraan lukisan malam.
Voilà la chanson de Sam Simon, dont le titre est Lukisan Malam. Cette chanson raconte de la beauté de la nuit ornée d'étoiles dispersées dans le ciel ainsi que le vent qui souffle. Sam Simon est connu pour sa voix douce et caractéristique, et beaucoup de gens disent que ce chanteur, qui a été populaire en 1950, a une voix lourde, dont les vibrations sont similaires à la voix de Nat King Cole, un chanteur américain. Sam Simon est un chanteur de keroncong indonésien. Il a porté souvent des chansons de keroncong sur Radio République Indonésie. Il est aligné avec les grands compositeurs de musique indonésien comme Ismail Marzuki, Maladi, Maestro Gesang et Waljina. Chers auditeurs, la chanson de keroncong que vous allez écouter s'intitule Wanita, chantée par Utami Tamsir.
Jika cemerlang
Cette chanson raconte d'une femme avec toute sa force, sa beauté de physique et sa douceur. Elle est devenue la chanson principale dans l'album de Kroncong de Indra Utami Tamsir, intitulé « Wanita Indonesia » ou en français « Les femmes indonésiennes », qui a été lancé à la mi-2016, qui contient 13 chansons. Femme ou Wanita est la chanson dont le genre est pop, créée par le compositeur s'appelle Ismail Marzuki, qui est reconditionné en une chanson de Kroncong. Après avoir lancé un album intitulé Wanita Indonesia, ou en français des femmes indonésiennes, en 2016, Indra Utami Tamsir a tenu des concrets aux plusieurs villes de l'île de Java. Ce sont Blora, Semarang, Solo, Yogyakarta, Bandung, Malang, Surabaya, Bali, et s'est terminé à Jakarta. L'existence d'Indra Utami Tamsir n'a pas été longue dans le monde du divertissement de l'Indonésie, en particulier dans la piste de musique de Kroncong. Pourtant, sa capacité dans le domaine de la musique de Kroncong a été bien reçue par la communauté des amateurs de musique de la patrie. Indra Utami Tamsir est chanteur de Blora, Java Central. Il a reçu le prix AMI Awards de la Fondation des prix de musique indonésienne en 2013 en tant que meilleure chanteuse solo de Kroncong. À ce moment-là, elle a collaboré avec l'orchestre de Kroncong, Pesona Jiwa, dirigé par Koko Tole. Chers auditeurs, comme d'habitude, pour terminer l'édition d'aujourd'hui, je vous donne une chanson de Indra Utami intitulée « Cinta Sejati ». Bonne écoute et bonne soirée!
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes
sur 3325
kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
Daku memandang angkasa raya, bintang cemerlang, gilang gemilang, hatiku sunyi. Hatiku yang hasrat mengenangkan, hatiku yang hasrat merindukan, di sunyi senyap daku memandang bintang cemerlang, hilang gemilang, hatiku rindu. Hasrat mengenangkan, hatiku yang hasrat merindukan, di sunyi senyap daku memandang.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous avez écouté tout à l'heure des chansons indonésiennes. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Écoutez tous les jours nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.